et brève sécurité, voici le jour du grand soir. Quand nous étions à l'école secondaire, on nous donnait un texte qui disait « L'année a enfin fini sa carrière ». Et 2019, bien aimé, depuis hier à 23h59, a fini sa carrière. Une nouvelle année a commencé. Mais rappelons-nous que l'année 2019 a commencé sur une note de frustration. Des attentes vives ont été exprimées lors de l'élection du 30 décembre 2018. Pour certains, ces attentes-là n'ont pas été atteintes. Pour d'autres, semble-t-il, ça a été atteint. Tout au long de cette année, nous l'avons passé dans des situations difficiles. L'angoisse a été semée dans nos cœurs compte tenu de la maladie à virus Ebola. On a entendu par-ci par-là des frères et sœurs qui ont perdu des êtres chers. Nous avons connu des deuils. Et dans cette paroisse, certains d'entre nous, bien engagés dans l'œuvre du Seigneur, ont connu deux deuils coup sur coup, perdant mère et quelques temps après, perdant père. Certains d'entre nous ont perdu des parents, d'autres ont perdu des enfants, d'autres ont perdu celui-ci ou celui-là. Il y a eu une recrudescence des tueries à Béni, vous avez suivi, et dans les Touris. Et la fin de cette année, à Goma, particulièrement à Katoy, on a connu des situations de pillage à grande échelle. Il y avait une inquiétude qui a agité nos cœurs dans cette ville. On peut donc dire que dans nos familles, dans nos vies individuellement, nous n'avons pas connu une vie très facile. Venez de rendre grâce pour des cas dans la famille de notre pasteur, mais c'est aussi membre de la paroisse qui a risqué la mort. Et quand il raconte comment cela s'est passé, on peut se dire que Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Les choses n'ont pas été faciles pour nous, l'année 2019. Que ce soit en famille, que ce soit dans notre travail chacun individuellement, il n'y a pas eu moins de problèmes. Certains ont été causés par la gratuité de l'enseignement de base. D'autres ont été causés par la situation économique du pays qui devient de plus en plus chaotique. Mais pour finir, certaines de nos requêtes n'ont pas été exaucées. N'est-ce pas? Chacun de nous a une liste et certaines de ces requêtes n'ont pas été exaucées, mais il y en a d'autres qui effectivement ont été exaucés. Nous avons dû organiser d'ailleurs une semaine pour prier instamment pour que le Seigneur accorde à des couples des enfants leur premier-né. Toute une semaine de prière, je. Et une autre semaine, nous avons organisé pour des situations liées au travail, liées à des situations qui s'installent dans la vie des uns et des autres. Alors la question qu'on doit se poser ce matin, sur quelle note doit-on commencer l'année 2020? Pas une note de frustration, mais plutôt une note d'espérance. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai choisi Jérémie chapitre 17, où je constate que nous devons affirmer, à la lumière de ce passage, qu'il y a deux sécurités en présence. Il y a la fausse sécurité, mais il y a aussi la vraie sécurité. Quand vous lisez Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6, il y a effectivement une fausse sécurité. Celui-là qui attire malédiction sur toute personne qui se détourne de l'Éternel. Et lorsqu'il se détourne sur l'Éternel, ça signifie qu'il se tourne vers autre chose. Et vers quoi, selon ce passage, il compte sur les moyens humains. Quels sont ces moyens humains? Ce sont peut-être les promesses des hommes politiques. C'est peut-être notre propre intelligence. On se confie à sa propre intelligence. On peut aussi se confier à sa beauté, à ses relations personnelles, à des combines dans lesquelles très souvent on est entraîné dans ces pays. On se confie aussi un peu trop à certains parapluies. Quand aussi on peut se confier au coup bas, à la corruption, mais aussi il y en a qui développent l'expertise de dribbler les autres. Il fait tout et on sent effectivement que c'est un grand dribbler. Et il se confie à cette capacité de dribbler. Toutes ces choses, et bien d'autres que je n'ai pas citées, montrent que celui qui se confie en tout cela, il n'est pas différent, dit la parole de Dieu, d'un arbuste qui est asséché, qui est sans vie, dans le désert où il occupe inutilement la place parce qu'il ne peut en aucun cas porter. Mais là, il y a la vraie sagesse, la vraie sécurité qu'on trouve dans les versets 7 et 8. Cette sécurité qu'on trouve dans les versets 7 et 8 fait référence à l'homme qui compte sur le Seigneur. Alléluia. Celui qui a décidé de ne pas compter sur lui, de ne compter sur qui que ce soit, ou sur autre chose que Dieu lui-même. Celui-là, la parole de Dieu dit, il est béni. Parce qu'il fait de l'Éternel son assurance. En d'autres termes, Dieu devient la sécurité par excellence. En quoi on peut trouver l'abri précieux. Alors celui qui compte sur le Seigneur, c'est celui qui effectivement met sa foi, engage sa foi et toute son espérance orientée vers le Seigneur et ses promesses. En d'autres termes, comme le dit le psalmiste ailleurs, celui qui remet son sort entre les mains de l'Éternel. Celui-là est comparé à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, dont les racines sont nourries par l'eau du ruisseau. Et parce que les racines sont nourries par l'eau du ruisseau, alors ces racines nourries par cette eau transplantent ou alors transfèrent au fur et à mesure dans les troncs, dans les branches, jusqu'à produire. Et donc, pendant l'année de la sécheresse, celui-là qui est comme cet arbre-là, il fera comment? Il gardera son assurance. Alléluia. Il gardera son assurance à cause de cette sève qui transporte de l'intérieur de la sève, qui contribue à la croissance, à la solidité, mais aussi à la fécondité de cet arbre-là, à la fécondité d'une vie. Pour celui qui est juste. Ce qui est contraire à celui qui s'est confié à lui-même, c'est que celui qui s'est confié à lui-même vit une certaine sécheresse. Il n'est pas stable. Il est frivole, il ne peut pas être solide. Mais celui-là qui s'est confié au Seigneur est fondamentalement solide. Un peu comme la solidité de l'arbre dont nous allons parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui va le caractériser? C'est que son feuillage va rester vert. Même pendant
sécheresse.
En temps de crise, ce juste-là va rester en train de produire du fruit. Et il apportera sans cesse. Dit la parole de Dieu. Alors la question, la première à laquelle il faut répondre ce matin, c'est comment se fait-il que certains porteront du fruit et d'autres ne porteront pas du fruit en 2020? Pour répondre à cette question, et c'est ça qui a amené à ce que j'ai pu choisir le psaume 92. Il faut nous tourner vers ce psaume qui parle de deux arbres, le palmier et le cèdre du Liban. Dans la société juive et chez les Arabes, les palmiers étaient considérés comme l'arbre béni. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est un arbre béni. Ils sont allés très loin, ils ont dit que cet arbre, c'est la sœur de l'homme. Béni pourquoi? Béni parce que cet arbre lui-même peut porter 200 à 300 kilos de fruits lorsqu'il produit. C'est formidable, n'est-ce pas? On disait donc de cet arbre-là dans ce contexte que cet arbre n'égale à rien par rapport à la grâce et la majesté que présente le palmier. Si vous avez déjà vu le palmier, il est comment? Il est trop élancé, n'est-ce pas? Il s'impose par la taille. Il est solide, et même s'il y a des vents, s'il y a l'ouragan, vous ne verrez jamais un palmier tomber. Jamais. C'est cette comparaison que le Seigneur, le texte biblique, est en train de faire pour les justes. Cet arbre-là, considéré comme le roi des plaines, là où vous trouverez des palmiers, vous constaterez qu'il s'impose vraiment comme un roi dans la plaine. Je venais de dire qu'il est suffisamment élevé. Il a aussi une verdure permanente. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait la sécheresse qui va avoir beaucoup de, passer beaucoup de temps, il lui reste vert de façon permanente. Mais en plus, il a une certaine vitalité qui est constamment renouvelée. Au fur et à mesure, il se renouvelle. Et d'où vient cette force-là? Ce renouvellement vient de l'intérieur. Il semble que le palmier a des racines qui vont très loin dans les fins fonds de la terre. Et le fait qu'il va très loin dans les fins fonds de la terre, pendant la période de la sécheresse, le palmier présente l'image de la vie, même alors qu'il y a la mort autour de soi. Tous ceux qui sont déjà passés en Asie peuvent bien comprendre ça, c'est là qu'il y a beaucoup de palmiers. Le palmier est très solide. Son feuillage reste vert. Et il produit à tout temps. Il produit de la bonne huile. Cet arbre-là peut produire bien des choses merveilleuses que je n'ai pas le temps de dire ici. Alors, l'auteur, le psalmiste, fait référence à ces deux arbres, le palmier et le cèdre du Liban, parce que le cèdre du Liban, lui, il a une caractéristique, c'est qu'il est résistant. Résistant aux ardeurs du soleil. Et donc, on peut comprendre que ces deux arbres bien-aimés constituent une certaine signification dans notre vie de foi et dans notre marche cette année 2019 avec le Seigneur. 2020 avec le Seigneur. Le premier là, qui est le palmier, c'est un arbre fameux. Je l'ai dit par rapport à son huile de grande valeur, à ce qu'il voit du fruit qu'il produit. Mais aussi par rapport à ce que cet arbre-là peut produire en termes de meubles, si on veut fabriquer des meubles intérieurs. Et le deuxième, il est fameux par rapport à sa force et à sa volonté. Ici donc, nous comprenons que nous devons comparer nos vies à être comme le palmier. Parce que le verset 13 de Psaume 92 a dit, les justes poussent comme le palmier. Donc la seule comparaison que le Seigneur a trouvée pour comparer les justes, c'est de dire que les justes doivent pousser, pousser davantage, sans recul, sans marche arrière, ils doivent pousser comme un palmier. Il doit s'imposer. Il doit rester solide. Même quand tout bouge autour de lui, il doit rester solide. Bien aimé, le juste a la vocation d'affirmer sa vitalité constante. Et donc, sa productivité ou la productivité du juste ne dépendra pas des circonstances, non. Ne dépendra pas des temps, non. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il a de l'intérieur la vitalité. Alléluia. Il a et il doit sauvegarder, il doit préserver. En temps de crise comme en temps de non-crise, il doit préserver cette vitalité qui vient de l'intérieur. Il y a de moins en moins de croyants comme ça qui justifient leur défaillance par rapport au temps en disant même Dieu aussi peut comprendre. Lorsqu'on est juste, on ne doit ni s'adapter ni s'accommoder. Sinon, comme l'a dit Jésus dans Matthieu chapitre 5, il perd sa saveur. Et lorsqu'il perd sa saveur, il devient inutile. Il ne reste qu'à être jeté au feu. Si donc le juste perd sa vitalité, perd sa saveur, et s'il est emporté par la crise, il n'a plus de raison d'être. Voilà pourquoi le verset 13 dit que le juste est planté dans la maison de Dieu. Alléluia. Il est planté dans la maison de Dieu. Beaucoup ont mal lu ce passage et ont considéré qu'être planté dans la maison de Dieu, c'est abandonner le travail. S'enfermer dans les temples ou dans les chambres de prière, chanter et prier toute la journée, c'est ça être planté ou c'est dans la maison de Dieu. C'est faux. Le texte veut nous dire qu'être planté dans la maison de Dieu, c'est entretenir, cultiver la communion avec Dieu, quoi qu'il arrive, à temps et à contre-temps. Cette communion l'aidera à préserver, à sauvegarder sa vitalité. C'est-à-dire, en dépit des difficultés auxquelles je ne connais pas lesquelles au cours de l'année 2020, toi non plus tu ne connais pas, auxquelles on pourrait, je parle au conditionnel, auxquelles on pourrait être confronté, et les défis, les difficultés, les vicissitudes de notre existence quotidienne, nous devons rester debout et ferme. Mais ce ne sera pas possible si nous ne gardons pas cette communion avec le Seigneur. Nous devons cultiver et entretenir cette communion au cours de l'année 2020. C'est ça qui nous donnera la force de tenir, de rester solide, de rester fort, d'avoir aussi la capacité d'endurer. On constate qu'il y a des personnes qui ont commencé la vie de foi alors qu'ils étaient encore jeunes. Et ils continuent jusque dans la vieillesse. Je me pose la question, la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce qu'elle va tenir encore pendant qu'on est? Mais ces gens qui ont réussi à tenir pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans dans la vie de foi, ils n'ont jamais abandonné. N'ont-ils jamais rencontré des problèmes? Jamais. Ils en ont en fait. Et quand ils parlent d'eux-mêmes, on constate ça. Cette semaine, nous avons organisé une retraite avec les jeunes qu'on appelle jeunes cadres. Je ne sais pas s'il y a des vieux cadres. Et chacun a donné son témoignage. J'espère que là seulement pendant quelques heures. Il n'y a personne qui a parlé, qui n'a pas montré les difficultés par lesquelles il a commencé. Alors, quel est le secret? Quel est le secret? Il y a une histoire que je connais depuis 1990. Ça fait donc 29 ans. Cette sœur n'a jamais été mariée. Pendant sa jeunesse, elle a demandé au Seigneur de lui donner un mari, tout comme les jeunes filles de Goma, elles sont aussi en train de demander des maris. Et les garçons aussi demandent des femmes. C'est normal, c'est légitime. On ne peut pas vous condamner pour ça. Mais Dieu lui a dit non, tu ne peux pas te marier. Si c'était toi, tu tiendrais dans la foi? Pas beaucoup. Elle a tenu dans la foi. Moi, je la connais, je t'ai dit, ça fait 29 ans. Je l'ai découverte dans une paroisse où je faisais mon stage. Et nous avons été vraiment des amis oubliés ensemble. Une fille qui aime le Seigneur, qui a su marcher avec le Seigneur. En dépit de son célibat qui a duré. Alors cette année, il y a quelques mois, elle est arrivée chez moi. Elle était en mission ici. Elle m'a dit, pasteur, je viens t'annoncer que je vais me marier. C'est mois de janvier va se marier. J'ai dit, mais sœur, dis-moi comment ça s'est passé. Il dit, pasteur, Dieu m'a confondu. Parce que quelqu'un qui aimait mon patron a perdu sa femme. Et quand il a perdu sa femme, il a semble qu'il a prié, Dieu lui a dit que la femme que je te propose, c'est riche. Elle est venue me parler, j'ai dit, Dieu m'a dit de ne jamais me marier. J'ai prié un temps pour lui. Et dans ma prière, le Seigneur m'a dit, c'est moi qui l'ai envoyé. Il a posé la question, elle a posé la question à Dieu, mais Dieu, tu changes. Tu changes. Dieu lui a dit, je suis souverain. Alléluia. C'est moi, et il va se marier. À plus de 5 ans. Le secret bien-aimé, c'est celui-là. C'est de trouver un renouvellement continuel. Un renouvellement quotidien. Que seul le Seigneur peut produire chaque matin dans la vie de quelqu'un qui compte sur lui, qui s'est confié en lui et qui marche avec lui. C'est celui-là. C'est-à-dire s'enraciner en Dieu dans ses promesses, dans ce qu'il est et ce qu'il peut faire pour nous. Dès qu'on était chapitre 4, verset 16 à 18, il nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'homme extérieur va vers la ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia.
Amen.
Le secret, c'est de cultiver cette communion dans ce que la Bible appelle l'homme intérieur. Je voudrais vous dire que il y a un homme de Dieu qui a dit que le monde aujourd'hui est un vaste complot contre la vie intérieure. Si vous perdez l'occasion d'entretenir votre vie intérieure, vous avez tout perdu. Et ce devoir est un devoir quotidien. Accepter de perdre autre chose, mais pas la vie intérieure. Il y en a qui, à cause de la technologie, ont perdu la vie intérieure. Seulement à cause du téléphone qui coûte 20 dollars ou 30 dollars. Il est plus stable. Il suffit qu'il perde ce téléphone, il peut perdre la Bible, il est calme. Mais s'il perd le téléphone, il n'est pas calme. C'est grave. Je vois des gens qui, même pour des appels, même des gens qui se respectent, ils sont prêts à sortir pour aller répondre à un appel. Pendant qu'ils prétendent être en présence de qui? En présence de Dieu. Je ne sais pas si Dieu est devenu Père Noël. Alors pour finir le dernier point, comment cultiver la vraie sécurité au cours de l'année 2020? Il y a bien des choses à dire, mais j'en dirai trois. Si vous lisez le psaume, le 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 12, dans ce passage, il est dit que nous sommes attachés à la vie et au bonheur. N'est-ce pas? J'ai reçu des messages nombreux pour me souhaiter quoi? Le bonheur. Et quoi encore? La prospérité. Nous aussi, nous les faisons. Mais il dit ceci, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 12, qui veut aimer la vie et voir quoi? Et voir des jours heureux. En quelle année? 2020. Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui? Parole trompeuse. Se détourner du mal. Et faire quoi? Faire le bien. Rechercher la paix. Et faire quoi? Et la poursuivre. Combien poursuivre la paix? Ils ont un tout petit conflit. Ils détournent les dos. Et ils sont calmes. Non. La paix peut fuir. D'ailleurs, elle fuit entre et parmi les amis. Elle fuit régulièrement dans la vie des couples. Pour un rien, on peut se voir, on est déjà en conflit pour ceux qui sont mariés, ils le savent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la pourchasser. Il faut la pourchasser. Il faut la rattraper. Autant que cela dépend de toi. Quand les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux-là qui font le mal. Deuxième chose, apprendre à compter chaque matin sur la bonté de Dieu qui se révèle. Sur la bonté de Dieu qui se révèle. Il y a un cantique que nous avons l'habitude de chanter. Le cantique qu'elle a mis fidèle et tendre, la strophe numéro 4 qui dit qu'elle a mis fidèle et tendre, nous avons un Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et comment est sincère. À chercher quoi? À chercher la sainteté. À ce moment, il fera quoi? Il écoutera nos prières. Bien aimé, nous avons des prières, des requêtes pour l'année 2020. On vous a donné l'occasion. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà formulé ça. Moi, j'ai déjà formulé le mien. Nous ne pourrons pas venir sans compter sur cette bonté de Dieu. Qui se renouvelle chaque matin. Qui va se renouveler chaque matin. Mais comptez également sur la capacité qu'il nous donne de vaincre. Mais nous ne pourrons pas vaincre le péché si nous ne cherchons pas avec sincérité la sainteté. Il ne faut pas nous réfugier dans le fait que nous sommes des pécheurs. Non. Nous devons rechercher la sainteté. Enfin, s'il y a des requêtes non exaucées, et les attentes non atteintes, commençons l'année en comptant sur le Seigneur. Renouvelons notre foi en lui. Renouvelons notre confiance en lui. Peut-être que vous priez pour votre mari, ça ne change pas. Priez pour votre femme, ça ne change pas. Priez pour vos enfants, ça ne change pas. Priez pour une situation de maladie, ça semble s'installer. Ou un chômage qui ne finit pas encore. Ou un enfant attendu. Il faut compter sur lui. Il faut compter sur lui, même si cette difficulté persiste. Parce que les souffrances ne sont jamais éternelles. Non. Un de mes proches m'a posé la question, comment se fait-il que je n'obtienne jamais rien sans que cela se fasse dans ma douleur? J'ai répondu simplement en disant, grande est ta mission, grande sera ta perte. C'est-à-dire que lorsque nous passons par des situations difficiles, en dépit de ce que la souffrance représente comme mystère que nous ne serons pas en mesure de dénouer, il faut accepter que la souffrance s'inscrit dans le plan de Dieu sur toi. Il faut en tirer profit. Il faut en tirer le maximum de profit. De manière que tu ne perds pas la foi. Tu ne perds pas la foi. Parce que si tu perds la foi, tu peux faire des choses que tu regretteras. Il faut rester solide. Il faut rester debout. Et ne pas perdre la foi. J'ai suivi un film, c'est une fiction, c'est vrai, mais ça traduit une certaine vérité. Une dame n'avait pas d'enfant. Elle a attendu pendant des années sans que cela se fasse. Les médecins ont utilisé tous les moyens, même tentant une naissance in vitro, ça n'a pas marché. Était complètement découragé. Une amie est venue lui dire, mais c'est facile, on peut trouver une solution à ce problème. Il dit, comment? Je vais t'amener chez un petit chien. Elle n'a pas voulu. Mais finalement, elle a cédé. Et quand elle est arrivée chez le petit chien a prononcé une phrase déroutante. Il a dit, cet enfant que tu cherches ne va pas te procurer de bonheur. Mais parce qu'elle voulait l'avoir, le petit soeur lui a accordé de l'avoir. Il a touché seulement sur le ventre, on n'a pas montré ce qui s'est passé après. C'est le fétiche. Et cet enfant, quelle joie. Mais ce que cet enfant a fait, c'est que cet enfant est devenu. Depuis son enfance, toute sa jeunesse, la famille a complètement souffert. Si nous voulons recevoir un don précieux, attendons-le de qui? De Dieu lui-même. Que le Seigneur bénisse sa parole. Parce que nous sommes avec des enfants,